Chapitre 20.
Mon cher Harry, s'écria John Hay, vous ne pouvez pas m'abandonner maintenant.
Je ne vous abandonne pas, répondit Henry James. Je mets un terme poli à mon intrusion.
Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité apparemment sans limite à Clara et vous. Vous vous souvenez que vous m'avez aidé à trouver une chambre à louer à proximité en 1883 lors de ma dernière visite.
Mais c'est très différent.
Les deux hommes se tenaient dans le bureau de John Hay ce mardi matin. Comme ce dernier l'avait rapporté à James, après l'avoir appris des domestiques, M. Sigerson était rentré peu avant l'aube, chapeau rabattu sur le front et col remonté, et s'était retiré dans sa chambre.
« Maintenant, nous avons Holmes et ses mystères !» poursuivit Hay. « Tout cela est tellement fascinant! Vous devez absolument partager cette aventure avec nous !»
Je tiens, une fois encore, à m'excuser d'avoir amené le détective ici sous une fausse identité et de faux prétextes,
commença James.
Allons donc,
s'écria Hay, repoussant les excuses d'un mouvement de ses longs doigts élégants.
C'est une expérience tout à fait passionnante que je n'aurais manqué pour rien au monde. Regardez ce qu'il a fait faire à mes secrétaires tout l'après-midi d'hier et ce matin.
James avait remarqué les boîtes d'enveloppes et de cartes qui occupaient toutes les surfaces du bureau.
« Vous n'allez tout de même pas autoriser cette inconnue à lire votre correspondance personnelle et professionnelle »
dit-il, incapable de cacher sa stupéfaction. Hay rit.
« Bien sûr que non. Il s'agit là uniquement d'enveloppes portant des adresses dactylographiées, même s'il pourra aussi comparer la première ligne de certaines correspondances anodines au sinistre Bristol que nous autres, les cinq de cœur, recevons tous les ans. Holmes m'a dit hier matin... Et je crois que ce sont ces mots exacts. Une machine à écrire est tout aussi unique qu'une écriture manuscrite.
James ne fit pas de commentaire.
Vous devez donc vraiment rester, répéta Hay. Je vais avoir besoin de vos avis et de vos conseils, mon ami. Ce sera très délicat quand Adams sera de retour.
Tout à fait, admit James. Je n'ai aucune intention de
le prévenir que le détective anglais Sherlock Holmes enquête sur le suicide de Clover? Sûrement pas. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'acceptera jamais de discuter de ce terrible jour de décembre. Adams serait scandalisé et dégoûté à l'idée qu'un détective fouille dans les vestiges calcinés de ses douloureux souvenirs.
Espérons seulement que ce qu'Adams ignore ne finira tout de même pas par le blesser. Les mensonges et les omissions ont une fâcheuse tendance à sortir au grand jour, surtout entre amis proches.
Hay resta silencieux un moment, sourcils froncés, avant de reprendre.
La vraie question, c'est doit-on en parler à Clara? Par une étrange coïncidence, elle collectionne les récits publiés des aventures de notre nouvelle amie.
Parler de quoi à Clara?
Demanda Clara Hay depuis la porte qu'elle avait discrètement ouverte pendant que les deux hommes débattaient à voix forte. Muni de son parapluie, malgré le ciel tout bleu et la température clémente de ce mardi de mars, James se mit en route vers le Capitole et sa bibliothèque du Congrès, à un trajet d'un peu plus de 3 kilomètres, lui avait dit Hay. Son ami avait ajouté que s'il désirait voir le Thomas Jefferson Building, beau bâtiment en construction, voué à accueillir la bibliothèque quelques années plus tard, il n'aurait qu'à parcourir 200 mètres supplémentaires. James s'en voulait d'avoir menti à Hay en prétendant souhaiter faire un peu d'exercice et de tourisme, alors qu'il avait une raison beaucoup moins agréable d'aller à la bibliothèque du Congrès. L'après-midi de la veille, il avait commis l'acte le moins digne d'un gentleman de toute sa vie d'adulte. Les domestiques faisaient la chambre de M. Sigerson quand James était remonté à l'étage. Elle venait de sortir, les bras chargés de draps, pour aller en chercher des propres, le temps d'aérer la pièce où flottaient les miasmes visibles de la fumée de pipe. James s'était arrêté et avait jeté un coup d'œil par la porte entrouverte. Holmes était parti un peu plus tôt, sûrement déguisé sous un chapeau melon et son imperméable au col remonté. Il était impossible de prévoir quand il reviendrait. Sa chambre était en grand désordre. Il y avait des vêtements par terre, des livres éparpillés partout. Des cendres répandues sur les précieuses tables de chevet des Hay et sur les tables du coin du salon, des plans de Washington et de New York étalés sur le sol, au milieu de chaussettes et de chaussures abandonnées. Un gamin résolu à contrarier ses parents par sa négligence aurait difficilement pu faire pire. Pourtant, à moins d'1 mètre de la porte, La veste que Holmes portait la veille lorsqu'il avait parlé à Hay, King et James dans le bureau de leur hôte était pendue au dos d'une chaise. Jetant un regard coupable par-dessus son épaule, ne voyant personne mais comprenant qu'il ne disposerait que de quelques secondes pour agir, James entra vite dans la chambre et plongea la main dans la poche intérieure de la veste. Holmes avait sorti 4 photographies au début de son petit exposé et ne leur en avait montré que 3. Celle du colonel Sébastien Moran, l'image floue du jeune Lucas Nadler et un vieux cliché de la femme qu'il avait appelée Irène Adler avant qu'elle se fasse passer pour Rebecca Lorne, l'amie de Clover Adams. Il ne leur avait pas montré la 4e. James ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit. Aussi fut-il surpris en sortant les 4 photos ainsi qu'un télégramme en papier pelure. Il reconnut 3 des clichés. Le 4e avait apparemment été découpé au ciseau dans une plus grande photographie. Elle montrait un homme en queue de pie avec un haut col démodé. Dans la 40aine, voire la 50aine, rasé de près, il avait les joues étrangement creuses et un regard pénétrant sous un front imposant au sommet dégarni. Quelques mèches brunes et grisonnantes pendaient au-dessus de ses oreilles ressemblant étrangement à des oreilles de loup. Le costume de l'homme et son maintien légèrement voûté avaient quelque chose de professoral, mais la façon dont son visage, comme taillé à la serpe, ressortait entre ses épaules noires, lui donnait un aspect prédateur. Malgré la posture guindée de l'individu, James crut distinguer sa langue entre ses petites dents si pointues que c'en était inquiétant. Le télégramme était adressé à Sherlock Holmes, au bureau de la Western Union situé à proximité. Et il portait la date de la veille et disait « Confirmation, Moriarty dispose réseau actif en France, Allemagne, Italie et Grèce, stop. » Et réseau finançant et soutenant criminels et anarchistes à Washington, New York, Baltimore et Chicago, stop. Prudence requise, stop. Mycroft. James remit les 4 photographies et le télégramme dans la poche de la veste et ressortit en hâte, au moment où une des femmes de chambre tournait au coin du couloir chargée de draps propres. Elle fit un pas de côté pour laisser passer James, et l'écrivain ne nota aucun signe, dans ses yeux baissés, qu'elle avait remarqué son indiscrétion. James traversa le petit parc et prit Pennsylvania Avenue en direction de l'est, jetant par moments des coups d'œil distraits à l'étendue de la pelouse nord de la résidence présidentielle à travers les grilles. Il prit la 15e rue nord-ouest à droite et parcourut environ 800 mètres avant de tourner à gauche dans un prolongement de Pennsylvania Avenue nord-ouest. Après avoir marché encore 1,5 km d'un pas vif, James dut attendre un instant avant de pouvoir traverser entre les voitures et les lourdes charrettes à cheval pour suivre Constitution Avenue vers l'est sur un petit kilomètre. Il avait décidé d'aller voir le futur Thomas Jefferson Building, ne serait-ce que pour pouvoir dire plus tard à Hay qu'il l'avait fait. 600 mètres plus loin vers le sud, sur la 2e rue, il arriva sur le site du chantier. 3 étages du nouveau bâtiment de la bibliothèque étaient sortis de terre, mais la structure n'était encore qu'une coquille vide, et les façades étaient festonnées de grues, de cordes, de systèmes de palans comme on en voit sur les bateaux, tandis que des échafaudages en bois et en fer se dressaient entre les hauts piliers du 3e niveau. Sur tout le terrain entourant le bâtiment en construction, il y avait des blocs de granit numérotés, des piles de bois d'œuvre protégées des intempéries par des bâches, des charrettes pleines, des ouvriers et encore d'autres grues, poulies et câbles. James aurait pu continuer de marcher vers le sud, puis retourner au Capitole par Independence Avenue, mais il préféra faire demi-tour et revenir sur ses pas jusqu'à East Capitol Street et traverser un espace vide et boueux, peut-être des jardins mal entretenus, en s'assurant de rester sur l'étroit sentier pavé avant de monter les marches de l'entrée est du Capitole. Quand James et Hay avaient été surpris par Clara, l'écrivain s'était attendu à une dispute ou à un mensonge de la part de son ami John, mais il n'en avait rien été. Hay avait tout avoué à son épouse. Au lieu d'être scandalisé d'avoir été trompé, Clara Hay s'était montrée enchantée que leur hôte, Jan Sigerson, soit en réalité Sherlock Holmes, le détective.
Oh, c'est un maître du travestissement, s'était exclamée Clara, joignant les mains comme en prière. Quel honneur d'avoir le plus grand détective privé du monde chez nous. Il me tarde de le raconter à Marie et Hélène et...
Vous ne devez en parler à personne, ma chère, l'avait interrompu Hay, levant un doigt en une sévère mise en garde. Monsieur Holmes est ici incognito pour ce que je crois être une mission des plus sérieuses. Sa vie serait peut-être en danger si sa présence en Amérique venait à être révélée. C'est en grande partie pourquoi Harry nous a demandé de garder sa visite avec Holmes aussi confidentielle que possible.
Oh oui, bien sûr. Je comprends. Mais une fois l'aventure terminée,
dit Clara Hay, portant les doigts à ses lèvres comme pour les sceller le temps nécessaire, elle affichait encore un large sourire.
Il faut que je descende le numéro de janvier de Harper's Weekly où est publiée la nouvelle La boîte en carton. Oh, et celui de février avec la figure jaune. Nous devons demander à Monsieur Holmes ce qu'il pense des récits que fait le docteur Watson de ses aventures.
Hay prit les mains de sa femme dans la sienne.
Clara, chérie, nous ne devons pas embarrasser notre hôte. Monsieur Holmes n'est pas l'auteur de ses aventures publiées, ne l'oubliez pas. Il y a peut-être des exagérations ou des parties gênantes qui pourraient le mettre mal à l'aise.
Bien sûr,
acquiesça Clara. Mais elle souriait toujours. Et James était sûr, en se hâtant de remonter chercher son parapluie pour pouvoir partir avant le réveil de Holmes, que les exemplaires de Harper's Weekly se retrouveraient au rez-de-chaussée, sous le nez du détective, avant la fin de la journée. Quand James avait annoncé à Hay qu'il s'arrêterait peut-être à la bibliothèque du Congrès pour consulter quelques ouvrages, Hay avait insisté pour lui écrire un petit mot de recommandation. James ne croyait pas en avoir besoin pour ce qu'il supposait être une bibliothèque publique, mais il avait rangé la feuille dans la poche de sa veste et n'y avait plus pensé jusqu'à ce qu'il soit arrêté par des bibliothécaires subalternes à l'entrée. Naturellement, Hay étant Hay, le mot de recommandation était adressé au bibliothécaire en chef du Congrès, un certain Ainsworth Rand Spofford. En lisant le mot, les bibliothécaires subalternes au bureau d'accueil s'étaient levés d'un bond, s'agitant comme des pigeons surpris. Puis, le plus haut gradé de ses petits employés avait personnellement accompagné Henry James, deux étages plus haut, jusqu'au bureau du bibliothécaire du Congrès. Spofford était un vieux monsieur maigre, à la mine souffreteuse, à la barbe grise et hirsute et aux longs cheveux ternes séparés par une raie qui ressemblait plutôt à une bande de crâne chauve. Son visage était dominé par un nez que James aurait cru taillé dans la pierre sur le chantier de construction de la nouvelle bibliothèque. Le bibliothécaire contourna son immense bureau pour aller lui tendre une main blanche et molle.
« Soyez le bienvenu, Monsieur James. La bibliothèque du Congrès est honorée de recevoir votre visite. En quoi puis-je vous être utile ?»
L'espace d'un instant, James fut déconcerté. Il avait imaginé pouvoir mener des recherches en toute discrétion.
« Vous venez voir notre collection de vos merveilleux romans et recueils, peut-être ?»
demanda Ainsworth Rand Spofford. Il se tenait toujours à côté de James et paraissait se sentir hors de son élément quand il n'était pas assis derrière son grand bureau.
« Oh, ciel, non !»
répondit James.
« Juste faire quelques menues recherches, si je puis dire. »«
Bien sûr !»
s'exclama Spofford, se frottant les mains comme si les deux hommes venaient de conclure une grosse affaire commerciale. Le bibliothécaire toucha un gadget compliqué sur son bureau, et une seconde plus tard, une porte dérobée dans un mur de livres s'ouvrit et une grande dame mince entra en silence.
« Je vous présente Mademoiselle Miller, l'assistante chef bibliothécaire, »
annonça Spofford.
« Mademoiselle Miller, voici notre hôte de marque du jour, le célèbre écrivain Henry James. »
Puisque Mademoiselle Miller s'était arrêtée à 3 mètres de distance, trop loin même pour une poignée de main américaine entre deux membres du sexe opposé, le célèbre écrivain inclina brièvement la tête. Mademoiselle Miller, constata James, était une caricature de bibliothécaire. Grande, maigre, au point qu'on devinait ses os, les cheveux relevés en un chignon sans élégance, vêtue d'une horrible robe en coton marron avec ce qui ressemblait à une chemise d'homme en dessous et chaussée de petites lunettes à double foyer à la Benjamin Franklin, perchée au bout d'un long nez, elle avait accroché un badge avec son nom sur le léger renflement qui pouvait être son sein gauche. D. Miller. D. Miller, songea James. Pitié, mon Dieu, non.
« Le prénom de Mademoiselle Miller est Daisy. Vous devriez donc bien vous entendre tous les deux. »
déclara Ainsworth Rand Spofford avec un aboiement rauque qui devait être une sorte de rire. Mademoiselle Miller rougit violemment. James baissa les yeux vers ses chaussures qui avaient pris la poussière sur le trajet depuis le chantier.
« Monsieur James souhaiterait faire quelques recherches, Mademoiselle Miller, »
disait Spofford.
« Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Monsieur James, n'hésitez pas à m'appeler sur le champ. »
Et il tendit de nouveau sa main molle. James toucha la relique et suivit Madame Miller par la porte aménagée dans la bibliothèque. La simple bibliothécaire, pas de B majuscule pour elle, le fit traverser un labyrinthe de petits bureaux remplis de livres pour entrer dans un étroit couloir à trois étages qui, comprit James avec un choc, était la bibliothèque du Congrès elle-même, ou du moins une partie. Des livres occupaient non seulement tous les rayonnages, mais s'empilaient sur le sol du rez-de-chaussée, derrière les rambardes de fer de chaque mezzanine et sur chaque table, bureau et surface disponible. Mademoiselle Miller remarqua sa stupéfaction.
Quand le bibliothécaire Spofford a pris ses fonctions en 1864, nommé par le président Lincoln en personne,
dit-elle d'une voix étonnamment suave,
la bibliothèque du Congrès possédait moins de 60 000 volumes, dont la plupart provenaient du don de la collection privée de Thomas Jefferson. À présent, nous en avons presque 400 000, ce qui fait de nous la plus riche source documentaire devant la bibliothèque publique de Boston. Et M. Spofford est résolu à ce que nous en ayons plus d'un million lorsque nous déménagerons dans le nouveau bâtiment Thomas Jefferson dans 3 ans.
Admirable,
murmura James alors qu'il se frayait un passage entre les piles de livres.
Tout à fait admirable. Extraordinaire.
Ils s'arrêtèrent à une croisée de couloirs.
En quoi puis-je vous aider, monsieur James?
Je pensais...
commença le célèbre écrivain.
Eh bien, je me demandais si vous disposiez d'un exemplaire d'un ouvrage assez obscur de physique ou de mathématiques intitulé « La dynamique d'un astéroïde ».
Mademoiselle Miller rit doucement. Son rire était aussi mélodieux que celui de son supérieur avait été grinçant.
Le livre du professeur Moriarty? Bien sûr que nous l'avons, monsieur James, même si vous avez raison de souligner qu'il est très rare. Mais le bibliothécaire Spofford a poursuivi l'objectif originel de la bibliothèque visant à enrichir la collection d'ouvrages de référence en sciences et en mathématiques.
James posa les deux mains sur la poignée de son parapluie et hocha la tête, tentant de cacher sa surprise devant la vitesse avec laquelle elle avait reconnu l'identité de l'auteur.
« Vous avez bien fait de demander de l'aide, »
poursuivit Mademoiselle Miller,
« car la dynamique d'un astéroïde n'est aujourd'hui plus en accès libre. »
Vraiment? Pour un livre aussi obscur et technique? Pourquoi donc, Mademoiselle Miller?
Eh bien, après la dépêche de l'agence de presse Reuters il y a 2 ans et l'article du New York Times qui reprenait celui du Times de Londres, relatant la disparition du professeur James Moriarty dans les chutes du Reichenbach avec le détective anglais Sherlock Holmes, nous avons eu trop de demandes de lecteurs. Nous avons eu peur que, laissé sans surveillance, il ne soit volé, ne serait-ce qu'à cause de l'attrait de la nouveauté.
Ah!
Par ici, monsieur James.
Mademoiselle Miller le guida vers un escalier où il ne restait qu'un étroit passage sur les marches entre des piles de livres. Les 2 heures suivantes furent fort instructives pour Henry James. Jamais il n'aurait trouvé les ouvrages du professeur James Moriarty, ni la moindre référence le concernant s'il avait dû se débrouiller seul. Mais Mademoiselle Miller lui dénicha tout ce que la bibliothèque du Congrès des États-Unis possédait concernant le fameux ou infâme professeur. Les 2 premiers ouvrages qu'elle lui apporta furent La dynamique d'un astéroïde, 209 pages d'équations impénétrables avec très peu de mots, et un fin volume de 68 pages intitulé Traité sur le binôme de Newton. Ce dernier avait été publié dès 1871, l'année même, d'après la brève 4e de couverture, où James Nolan Moriarty avait obtenu ses 2 diplômes en mathématiques et en physique appliquée au University College de Dublin. Le livre, publié par une petite maison d'édition dublinoise inconnue de James, était dédié à Carl Gottfried Neumann, professeur à l'université de Leipzig. James n'avait jamais entendu parler du professeur Neumann, mais Mademoiselle Miller l'assura que c'était un personnage important, souvent cité dans des revues de mathématiques, notamment allemandes. Pour le prouver, elle lui apporta même le livre du savant intitulé « Das Dirichlet'sche Prinzip in seiner Anwendung auf die Reichsmännischen Flächen ». James aurait pu prendre le temps de se demander comment un étudiant du University College à Dublin pouvait être avancé au point de dédicacer son premier livre de théorie mathématique à un professeur de Leipzig, mais au lieu de ça, il expliqua à Mademoiselle Miller qu'il était avant tout intéressé par des informations biographiques concernant le professeur Moriarty et par des photographies du professeur s'ils en avaient. S'il vit de la curiosité dans le regard de Mademoiselle Miller, la bibliothécaire était bien trop professionnelle pour demander, Envisagez-vous d'écrire un livre sur l'homme qui a tué Sherlock Holmes ? Elle fila chercher d'autres références dans différentes sections scientifiques du dédale de piles, de rayonnages et de pièces cadenassées qu'était la bibliothèque du Congrès. En moins d'une heure, James eut accès à toutes les ressources dont disposait la bibliothèque sur l'homme que Sherlock Holmes, sur le papier, avait appelé le Napoléon du crime et dont il avait douté de vive voix de l'existence même. Les informations prêtaient pourtant à confusion. Même les dates et les lieux de naissance ne correspondaient pas. Le Who's Who in European Mathematics de 1884 affirmait que le professeur James Moriarty, son deuxième prénom, auteur du traité sur le binôme de Newton, était né à Dublin en 1846. Un annuaire du University College, Dublin, où un professeur James N. Moriarty figurait parmi les professeurs de mathématiques de 1872 à 1878, le faisait naître en 1849 à Greystones, un petit village entre Dublin et Wicklow, comme le lui apprit Mademoiselle Miller après consultation d'un atlas de l'Irlande. Si Moriarty était encore vivant aujourd'hui et n'avait pas péri en 1891 dans les chutes du Reichenbach, quel âge aurait-il ? 44 ou 47 ans ? Une autre surprise pour James fut la découverte de la date de copyright de la dynamique d'un astéroïde, publiée par une maison inconnue à Londres en 1890. Même si la date de naissance de Moriarty était la plus récente parmi celles indiquées, il aurait eu 41 ans à la parution, ce qui était vieux, d'après ce que Henry James avait compris pour la première contribution majeure d'un mathématicien. Un professeur d'Oxford lui avait raconté un jour que les mathématiciens comme Charles Dodgson, plus connu sous le nom de Lewis Carroll, publiaient en général leur meilleur ouvrage avant d'avoir 30 ans. Tournant les pages de la dynamique d'un astéroïde, couverte d'équations mathématiques aussi impénétrables à James que des hiéroglyphes, il marmonna à voix haute
« Si j'avais ne serait-ce qu'une vague idée du sujet de ce livre... »«
J'ai entendu des scientifiques en discuter ici, » dit Mademoiselle Miller, pensant qu'il s'adressait à elle. « Il semble que l'astéroïde en question crée ce que les astronomes et mathématiciens appellent un problème à trois corps. » Prenez deux corps célestes. Leur attraction gravitationnelle, la force de marée qu'ils exercent l'un sur l'autre, leur rotation chaotique, leurs orientations tridimensionnelles et ainsi de suite peuvent être déterminées grâce aux techniques des mathématiques modernes et classiques. Mais si on ajoute un troisième corps, alors l'orientation, la rotation chaotique et même la trajectoire d'un astéroïde ne sont plus calculables. Si j'ai bien compris, le professeur James Moriarty a acquis sa renommée en montrant dans ce livre ce qui ne peut pas être calculé.
Très intéressant, dit James, même si le résumé qu'elle faisait de l'analyse des autres lui passait largement au-dessus de la tête. Au bout d'un instant, il reprit « Il n'y a donc aucune chance de trouver une photographie du professeur Moriarty.
Venez avec moi, monsieur James. »
Mademoiselle Miller, James s'efforça de ne pas penser à son prénom malheureux, s'élança d'un pas martial tel un soldat partant au combat. Ils durent monter dans ce qui semblait être le grenier poussiéreux du Capitole, mais apparemment pas sous le grand dôme, et Mademoiselle Miller déverrouilla encore trois portes avant de pénétrer dans une pièce remplie de milliers de revues soigneusement classées.
« Mathématiques, conférences européennes ?»
marmonna-t-elle. Elle fit signe à James derrière son dos de s'asseoir sur le seul siège disponible. Une chaise basse devant ce qui ressemblait à un pupitre d'écolier au milieu de cette pièce incroyablement encombrée. James était sûr que cette bibliothèque alimenterait ses cauchemars pendant des années.
« Voilà !»
s'écria enfin Mademoiselle Miller, sortant une revue allemande au titre trop long et à l'écriture gothique si pleine de umlaut que James ne se donna même pas la peine de tenter de le déchiffrer. Elle l'ouvrit à la page 36 et posa le doigt sur une rangée de 8 tomes faisant face à l'objectif. La légende, en allemand, indiquait « Conférence de mathématiques avancées et d'astrophysique, Université de Leipzig, juillet 1892 ». Les noms étaient inscrits sous chaque homme, mais James n'eut pas besoin de les lire. Il vit tout de suite Moriarty à l'extrême droite, même crâne dégarni, même longue mèche de cheveux noirs, même cou tendu comme celui d'un reptile, et la pointe d'une langue apparaissant entre les fines lèvres pâles. C'était la même photo qu'il avait sortie subrepticement de la poche de Holmes ce matin-là. Le détective avait dû la découper dans un exemplaire de cette revue. Professeur James N. Moriarty, Londres. aucune affiliation à une université n'était mentionnée. Mais la conférence s'était tenue en juillet 1892, plus d'un an après la mort de Moriarty dans les chutes du Reichenbach, en mai 1891, telle qu'elle avait été rapportée par les journaux. Sûr qu'il ne trouverait rien de plus sur ce Lazare à la bibliothèque du Congrès, James fit mine de prendre quelques notes et assura une Mademoiselle Miller contrite que, en dépit de l'apparente pauvreté des informations disponibles, elle lui avait été d'une aide inestimable. Inestimable. Il se leva et se tourna pour partir, mais ne retrouva même pas son chemin dans le grenier jusqu'à l'escalier. Mademoiselle Miller lui demanda par où il voulait sortir.
« Par la porte principale, je suppose, » répondit-il.
« Merveilleux !» répondit la serviable bibliothécaire. « Vous pourrez ainsi avoir un aperçu du Capitole. »
Il suivit son aîné dans plusieurs escaliers, entre d'innombrables piles de livres, à travers de longs et hauts couloirs encombrés pour émerger sous les voûtes de marbre et le dôme majestueux du Capitole des États-Unis. Henry James fut impressionné, non pas tant par la taille romaine de la colossale structure que par sa pure blancheur grecque. Et la lumière du début d'après-midi qui faisait étinceler les sols de marbre était ravissante. Une fois dehors, sous le haut portique, alors que les colonnes monumentales encadraient la vue sur la résidence présidentielle à 1 kilomètre de là, James se tourna vers la bibliothécaire.
« Je tiens à vous remercier très sincèrement une nouvelle fois pour votre aide précieuse dans ma petite recherche, mademoiselle. »
Il effleura son chapeau et s'engagea sur les marches, puis s'arrêta et se retourna quand la bibliothécaire assistante le rappela.
« Monsieur James, je... »
Elle se tordait les mains, rougissante.
« Je n'aurai sans doute pas d'autre occasion, alors j'espère que vous ne trouverez pas impertinent de ma part d'en profiter pour vous remercier d'avoir écrit ce que je considère comme un roman si merveilleux et avisé à propos de l'esprit d'une femme. »
« Daisy Miller, » songea James. Cette pauvre créature a tant à apprendre sur la vie. Lui aussi à l'époque où il avait écrit ce texte populaire, mais ô combien superficiel.
« Merci, mademoiselle Miller, » dit-il d'une voix onctueuse. Mais le personnage éponyme pâlit devant la beauté et la sagesse de son homonyme.
« Éponyme ?»
répéta Daisy Miller en rougissant de plus belle.
« Non, monsieur James, je ne parlais pas de votre roman Daisy Miller. Celui-là était un plaisant divertissement. Non, je parlais de votre merveilleux portrait de femme. »«
Ah, trop aimable !»
murmura James dans sa barbe. Il effleura encore une fois son chapeau, lui adressa un léger signe de tête, puis se tourna pour descendre les larges marches de pierre blanche au rythme du martèlement de son parapluie.
Un plaisant divertissement? Mais pour qui se prenait donc cette vieille fille rabougrée?
C'était déjà le milieu de l'après-midi. James, qui n'était pas prêt à retourner chez les Hay, chercha un endroit près du Capitole où prendre un déjeuner léger. Il s'était imaginé trouver un petit bistrot, mais ne dénicha qu'une espèce de délicatessen, le genre d'établissement pour employés du gouvernement pressé, ne disposant que d'une courte pause pour déjeuner, qui ne servait que des sandwichs rudimentaires et du café tiède. Mais comme il y avait des tables dehors, il s'assit à l'ombre et sirota son café en songeant à la teneur de ce qu'il avait vu et appris à la bibliothèque du Congrès. Jusqu'à cet après-midi, James avait eu l'intention de faire ses adieux aux Hay, de préférence avant le retour de Henry Adams plus tard dans la semaine, et de repartir seul à Londres. La vague de désespoir qui l'avait conduit à Paris et sur le quai de la Seine avait reflué, et il voulait seulement s'extraire de cet enchevêtrement poisseux de déguisements et de fausses identités dans lequel ce Holmes, qui qu'il soit réellement, l'avait emprisonné. Mais à présent, sachant sans l'ombre d'un doute que Holmes lui avait menti en prétendant avoir inventé le professeur Moriarty afin qu'il puisse mourir avec lui dans les chutes du Reichenbach, et après avoir vu la photographie du vrai Moriarty dans la poche de Holmes et dans la revue de mathématiques, James était déterminé à rester avec ses amis les Hay et Henry Adams jusqu'à ce que l'imposture de ce Sherlock Holmes soit démasquée. Revigoré par cette nouvelle résolution, James repartit vers Lafayette Square et la maison de John et Clara Hay. À la minute où un domestique le fit entrer, Hay dévala l'escalier dans un état de grande agitation et l'entraîna vers son bureau.
« C'est le moment de la révélation !» dit-il. « Il n'a pas voulu parler avant votre retour !»«
La révélation ?»
répéta James. Il sentit une appréhension le saisir comme chaque fois que ce Holmes révélait quelque chose. Le bureau de Hay était un capharnaüm. Des cartes et des enveloppes dactylographiées sorties de leurs boîtes et classeurs étaient disséminées partout. James fut surpris de voir Clara, en plus de son mari et de Holmes, débarrassée de son déguisement de Sigerson.
« Clara ?» dit James un peu stupéfait. « Vous êtes partie prenante de... »«
Oh oui, oui !»
s'écria Clara Hay. La respectable matrone de la bonne société washingtonienne lui pressa la main comme une écolière, tout en agitant de l'autre main deux numéros de Harper's Weekly.
« Et Monsieur Holmes m'a donné ses impressions concernant Flamme d'argent et la figure jaune et... »«
Silence !» cria Hay. Le diplomate à la placidité légendaire ne se tenait plus d'excitation.
« Nous sommes sur le point de connaître les résultats de la comparaison des polices de caractère !»
Sherlock Holmes était sous le feu des projecteurs et semblait s'en délecter. Il brandissait les cartes originales portant la mention « Elle a été assassinée » ainsi que diverses enveloppes et notes dactylographiées.
« J'ai trouvé la machine à écrire, sinon l'homme, derrière ces cartes anodines envoyées tous les ans », annonça-t-il.
« Bon sang !»
s'exclama John Hay.
« Dites-nous qui c'est !»
Holmes examinait encore les polices à l'aide d'une loupe, puis releva les yeux.
« Qui est-ce, Samuel Clemens ?»